Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, vous suivez Radio Vatican. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme dont voici les principaux titres. Les activités du Saint-Père au cours de la semaine feront l'essentiel de l'actualité de l'Église avant de nous enquérir des nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est au Ghana, au Bénin et en République démocratique du Congo. En ce qui est de l'actualité sociopolitique sur le continent africain, nous nous rendrons notamment au Nigeria, en Afrique du Sud, en Tunisie et en Libye. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Donatien Niembo.
Commençons notre édition avec la semaine du pape que nous présente Camille Moukoso.
Le pape a reçu tour à tour en audience privée le cardinal Baltazar Henrique Porras Cardozo, archevêque de Mérida au Venezuela, Monseigneur Fulop Kosis, archevêque de l'église métropolitaine Sugiris de Andorago pour les catholiques des rites byzantins en Hongrie, le cardinal Gualtiero Bassetti, archevêque de Pérouse et président de la conférence épiscopale italienne ainsi que ses vice-présidents. Il a été rendu public samedi le message du pape pour la 107e journée mondiale des migrants et des réfugiés qui sera célébrée le dimanche 26 septembre prochain. Le Saint-Père a choisi comme titre de son message traditionnel « Vers un nous toujours plus grand » inspiré par son appel selon lequel à la fin il n'y aura plus d'autre mais un seul nous universel. Le Saint-Père a nommé vendredi consulteur du Conseil pontifical de la culture le professeur Antonella Ciarone Alibrandi, vice-prorecteur de l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan, et Alexandra Talomo, professeur de la faculté de médecine et psychologie de l'Université La Sapienza de Rome. Le pape et l'ensemble de la curie romaine ont achevé vendredi les exercices spirituels de carême. Cette année, cette retraite était individuelle, la curie romaine ne pouvant pas se réunir comme les années antérieures à cause de la pandémie de la COVID-19. Mercredi, le Saint-Père a nommé le docteur Roberto Berabei comme son nouveau médecin personnel. Le docteur Berabei est gériatre à la Polyclinique universitaire Gemelli à Rome et professeur de gériatrie et de médecine. Le pape avait adressé mardi un télégramme de condoléances au président de la République italienne Sergio Mattarella au lendemain de l'attaque qui a visé le convoi des deux véhicules du programme alimentaire mondial PAM qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo Luca Antanasio, âgé de 43 ans, et un carabinieri italien Vittorio Iacovacci, 30 ans, et leur chauffeur congolais Mustafa Milambo. Le Saint-Père avait écrit lundi à Monseigneur Pietro Liberman, évêque des Płock en Pologne, à l'occasion du 90e anniversaire de la première révélation de Jésus miséricordieux à Sainte Faustinia Kowalska le 22 février 1931. Toujours lundi, le Saint-Père avait nommé membre de l'administration du patrimoine du siège apostolique le cardinal Peter Tourson, préfet du dicaster pour les services du développement humain intégral, et le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour les évangélisations des peuples. Par ailleurs, le pape avait nommé lundi membre du comité pontifical pour les sciences historiques le père Augustin Lafaille, archiviste de l'ordre des frères prêcheurs, la sœur Nicoletta Victoria Spezzati, consultante historique de la congrégation pour les causes des saints, le professeur Antal Manard, directeur de l'Institut historique du Centre des recherches pour les études humanistes du Conseil national de la recherche de Budapest en Hongrie. Le pape avait nommé en outre le docteur Immacolata Inocciati au poste de secrétaire général de l'Université du Latran.
Dans une déclaration collective publiée le jeudi 25 février dernier, les évêques du Ghana ont cherché à clarifier leurs propos condamnant la poussée de l'homosexualité dans leur pays après que leur récente déclaration ait suscité une controverse parmi les partisans de l'homosexualité. Les évêques ghanéens précisent que l'Église désapprouve les actes homosexuels qu'elle considère comme intrinsèquement immoraux. Ils expliquent ainsi que l'immoralité inhérente aux actes homosexuels rend impossible pour l'Église d'accepter la défense et la promotion publique de l'homosexualité comme un mode de vie alternatif. En outre, les prélats ghanéens affirment que les personnes ayant des penchants homosexuels sont des sujets de la pastorale de l'Église comme n'importe qui d'autre dans l'Église et en dehors de celle-ci. Ils dénoncent également les efforts concertés d'une partie des médias qui soutient et promeut l'homosexualité et qui cherche toujours désespérément une forme d'approbation de l'Église. Les évêques du Ghana rappellent enfin qu'à l'instar de Jésus lui-même qui est venu, non pas pour appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance, l'Église dans sa pastorale est soucieuse du salut de tous les enfants de Dieu et s'efforce de leur montrer l'amour et la miséricorde de Dieu. La conférence des jésuites d'Afrique et de Madagascar, JICAM, s'est fait l'écho des préoccupations exprimées par certains pays membres de l'Organisation mondiale du commerce concernant une dérogation à certaines barrières de propriété intellectuelle afin d'aider à élargir l'accès aux outils médicaux COVID-19 dans le monde entier. Dans une lettre rendue publique vendredi et signée par le président de la Conférence des Jésuites d'Afrique de Madagascar, le père Emmanuel Orobator, les supérieurs majeurs des Jésuites d'Afrique disent joindre leur voix à celle du pape François qui a affirmé la nécessité de rendre les vaccins COVID-19 disponibles et accessibles à tous. Par ailleurs, la Conférence des Jésuites d'Afrique et de Madagascar note que la crise de la COVID-19 continue de s'aggraver, en particulier en Afrique, où de nombreux pays ont enregistré de nouvelles souches de la maladie, contribuant ainsi à une augmentation du nombre de cas et de décès. Les jésuites africains demandent à l'Allemagne et au G20 de demander au Fonds monétaire international d'émettre un nouveau cycle de droits de tirage spéciaux qui servirait à financer l'augmentation rapide de la production de vaccins et leur distribution aux pays en développement. Retrouvons notre correspondant au Bénin pour parler de la contribution des confessions religieuses pour une présidentielle apaisée. Reportage.
Sous l'égide de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, l'OCCG au Bénin, et en présence de l'évêque du Porte-Nouveau, Monseigneur Aristide Gonzalo, secrétaire général de la conférence épiscopale du Bénin, les représentants des confessions religieuses, catholiques, musulmans, protestants, membres des cultes endogènes et des célestes, ont délivré devant la presse nationale et internationale le mardi 23 février 2021 au Kodiam à Cotonou, un message intitulé « Contribution des religions à l'organisation d'un scrutin présidentiel inclusif, transparent et apaisé et un bon déroulement du processus électoral ». Sous la voix de leur coordonnateur, le père Nathanaël Yaoui Souédé, aumônier national des quatre personnalités politiques du Bénin, président de l'OCCG, on a pu entendre.
Notre pays a besoin de l'esprit de fraternité, de dialogue, de justice, de pardon mutuel et de la réconciliation dans les paroles, les projets et les actions de tous ses enfants pour assumer notre avenir.
Avant la prière œcuménique et interreligieuse de demande de pardon et de paix pour le bénéfice à l'unisson des participants à la fin de cette conférence de presse précédée de plusieurs autres messages de paix et de réconciliation des responsables religieux, le président de l'Union islamique du Bénin a tenu à insister.
Quels que soient les enjeux, les intérêts et les bords, les élections passeront et les relations humaines devront continuer. Il importe donc de savoir gérer ces périodes pré- et post-électorales pour la paix sociale dans notre pays.
Guy Dosuyovo, Cotonou, pour Radio Vatican.
Rendons-nous en République démocratique du Congo pour évoquer avec notre correspondant local les funérailles de Monseigneur Joseph Kessengue, évêque émérite de Molégbé.
Piété, ponctualité, discipline, simplicité et sobriété. Voilà des mérites de Monseigneur Joseph Kessengue, évêque émérite de Molégbé dans la province du Nord-Ubangi. Il a été enterré le vendredi 26 février dans la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Molégbé à l'issue de la messe des funérailles présidée par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. Fridolin Ambongo a prêché sur la parabole des talents de l'évangile selon saint Matthieu. Il a vanté les qualités pastorales de celui qui l'a baptisé, lui a donné la première communion avant de le confirmer et plus tard de l'ordonner prêtre. Monseigneur Joseph Kessengue, évêque de Molégbé de 1968 à 1997, avait veillé sur l'unité du diocèse. Monseigneur Kessengue est mort le vendredi 19 février à Gbadolité, à 93 ans, dont 53 d'épiscopat. Il était évêque émérite depuis 24 ans. À ses obsèques, 5 évêques ont concélébré autour du cardinal Fridolin Ambongo, Mgr Dominique Boulamatari, évêque de Molégbé, Ernest Mboko, archevêque de Mbandaka-Bikoro, Jean-Bertrand Adonie, évêque de Lolo, Philibert Tembo de Boudjala et Ferdinand Maemba, évêque émérite de Lolo. Jean-Baptiste Malenge Kalonzou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au Nigeria, les autorités locales ont annoncé samedi que les 42 personnes, dont 27 enfants enlevés il y a 10 jours dans une école du centre-ouest, ont été libérées au lendemain d'un nouveau kidnapping de masse où 317 jeunes filles ont également été enlevées dans les nord du pays. Les élèves, le professeur et leurs proches du Collège des sciences de Kagara ont retrouvé la liberté et sont reçus par le gouvernement local, a annoncé M. Abubakar Sani Bello, gouverneur de l'État nigérian du Niger. Le président Muhammadu Buhari, très fortement décrié face à la situation sécuritaire catastrophique dans le nord du Nigeria, avait assuré vendredi qu'il ne céderait pas au chantage des bandits. L'Afrique du Sud a reçu samedi une deuxième livraison de vaccins contre le Covid-19, a indiqué le ministre de la Santé Zweli Mkhize, alors que ce pays le plus touché par les virus en Afrique s'efforce d'accélérer sa campagne de vaccination. Selon le ministère sud-africain de la Santé, plus de 63 600 personnels de santé du secteur public et privé ont été vaccinés depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination il y a 11 jours. L'opposant du Niger, Amadou Hama, accusé par le pouvoir d'être à l'origine des troubles qui ont suivi la proclamation des résultats de la présidentielle, a passé sa première nuit dans les locaux de la police, a indiqué samedi un de ses proches. Vendredi, M. Hama s'était rendu lui-même à la police judiciaire en compagnie de son avocat. Pendant ce temps, des manifestations se sont poursuivies vendredi en début de soirée dans au moins deux quartiers dans la périphérie de la capitale. L'ancien chef du gouvernement tunisien Habib Esid a fait un malaise en direct lors d'une interview sur la chaîne France 24 vendredi soir, a indiqué samedi son entourage, précisant qu'il était en réanimation dans un hôpital de Tunis. Âgé de 71 ans, M. Esid a dirigé un gouvernement de coalition en 2015 et 2016 et n'a plus de responsabilité politique.
Radio Vatican, Français Afrique, Donatien Niembo.
Le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, a appelé vendredi le premier ministre par intérim Abdel Hamid Abdeba à inclure des représentants de personnes compétentes et intègres issues de toutes les régions du pays pour que le consensus souhaité soit atteint. M. Abdeba a affirmé jeudi soir lors d'une visite à Rabat au Maroc que l'échéance pour former son gouvernement expirait vendredi. Ce gouvernement, s'il est formé, aura la lourde tâche d'unifier les institutions d'un pays déchiré par des divisions et de mener la transition jusqu'aux élections prévues le 24 décembre. Par ailleurs, M. Saleh a annoncé la tenue d'une séance parlementaire le 8 mars pour discuter du vote de confiance au gouvernement. Le père jésuite Martin Bahati nous introduit à la méditation avec les lectures du deuxième dimanche de Carême.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous propose de célébrer le deuxième dimanche du temps de Carême en B. Le livre de la Genèse dans la Péricope lue nous présente l'histoire du sacrifice d'Abraham. Dans l'Évangile, Saint Marc, quant à lui, nous fait méditer sur le passage de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ devant trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. La symbolique de la montagne dans les Écritures saintes est très importante et significative. La montagne est le lieu où Dieu se révèle, est rencontré et expérimenté. Nous pouvons nous souvenir de Moïse qui rencontrait Dieu sur le mont Sinaï. Jésus prêche le sermon sur la montagne et il a été crucifié sur le mont Calvaire. Jésus est transfiguré sur la montagne. Dans les deux lectures, Genèse et l'évangile de Saint Marc, nous trouvons deux mouvements significatifs de toute vie spirituelle, la montée sur la montagne, mais aussi la descente dans la plaine. Monter sur la montagne, c'est se mettre à l'écart, c'est être au-dessus, en un lieu de théophanie, d'écoute et de prière. Monter sur la montagne, c'est élever son esprit, quitter un instant le monde purement matériel, pour une rencontre immatérielle avec Dieu. Il s'agit de s'élever au-dessus de créer pour contempler la gloire et la grandeur de Dieu. Le Seigneur nous invite souvent à l'écart pour converser avec lui dans la prière. Notre vie spirituelle a besoin de cette écoute de Dieu afin de vivre de sa parole dans la routine sociale. Ainsi donc, après avoir écouté le Seigneur et contemplé sa gloire sur la montagne, il nous faut descendre dans la plaine rencontrer nos frères et sœurs. La vraie rencontre avec Dieu sur la montagne de la prière nous renvoie à l'action, et cette action se réalise au sein de la communauté des frères et des sœurs. Nous sommes invités à retourner en bas, dans la plaine, à rejoindre le monde dans ce qu'il vit. Nous y trouverons tous ceux et celles qui sont accablés par le poids du fardeau, des maladies, des injustices, de l'ignorance, de la pauvreté matérielle et spirituelle. L'évangile de Saint Marc sur la transfiguration éclaire la vie de Jésus, mais aussi chacune de nos vies. Face aux difficultés que nous rencontrons tous les jours, les moments de contact avec Dieu peuvent nous redonner le courage nécessaire pour descendre de la montagne et faire face aux problèmes de la vie quotidienne. Il semble que Martin Luther King, au milieu de menaces de mort, se souvenir de ce passage biblique de la transfiguration et il a écrit dans son journal « Je suis monté sur la montagne pour prier et j'ai entrevu la terre promise. Cette rencontre avec Dieu m'a permis de continuer à lutter pour la justice. » Le dimanche de la transfiguration est une invitation à prier, mais aussi à travailler dans la société, à être des contemplatifs dans l'action. La parole de Dieu que nous écoutons dans la prière et qui nous transforme intérieurement et extérieurement, nous ne pouvons la garder pour nous seuls. Si nous l'accueillons, ce n'est pas pour la mettre au frigo, mais pour la partager avec nos frères et sœurs. Prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce de l'écouter et de le contempler dans sa gloire, mais aussi la joie de le proclamer et de le partager au monde. Amen.
Toujours avec le Père Martin Bahati, poursuivons notre programme avec la présentation de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la lecture du premier chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Ce chapitre est intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». La fois passée, nous avons lu la partie sur la globalisation et le progrès sans cap commun. Aujourd'hui, le pape nous parle des pandémies et autres chocs de l'histoire. Le pontife commence par montrer comment une tragédie mondiale comme la pandémie de COVID-19 a réveillé un moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. À cet effet, le pape dit ceci. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu'il n'est possible de se sauver qu'ensemble, sur la même lancée. Le pape montre que si tout est connecté, il est difficile de penser que cette catastrophe mondiale n'ait aucune relation avec notre façon d'affronter la réalité en prétendant que nous sommes le maître absolu de nos vies et de tout ce qui existe. Mais comme nous oublions vite les leçons de l'histoire, maîtresse des vies, le pape nous avertit que le pire après la crise sanitaire serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans les nouvelles formes d'autopréservation égoïste. Par la suite, le pape formule des vœux pour un monde différent, pour des relations différentes. Plaise au ciel, qu'en fin de compte, il n'y ait pas les autres, mais plutôt un nous. Plaise au ciel, que ce ne soit pas un autre épisode grave de l'histoire dont nous n'aurons pas su tirer leçon. Plaise au ciel, que nous n'oublions pas les personnes âgées décédées par manque de respirateurs, en partie comme conséquence du démantèlement, année après année, des systèmes de santé. Plaise au ciel, que tant de souffrances ne soient pas inutiles, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns envers les autres, afin que l'humanité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes les voies au-delà des frontières que nous avons créées.
Invité du jour.
Notre invitée du jour est encore une fois Madame Deborah Kayembe. Originaire de la République démocratique du Congo, Madame Kayembe a été élue rectrice de l'Université d'Edinburgh en Écosse le 1er février dernier. Elle devient ainsi la troisième femme et la première personnalité noire à occuper ces postes depuis la création de l'Université d'Edinburgh en 1858. Aujourd'hui, elle commence par nous parler de sa contribution à la société écossaise. On l'écoute.
Je continue à contribuer à la société écossaise d'une manière très active et j'amène de plus en plus cet agenda de ne pas exclure les gens parce qu'ils sont nés dans un autre pays, parce qu'ils ont étudié dans un autre pays. Regardez ce qu'il y a dans leur tête. Veillez sur ce qu'ils sont en train de vous présenter. À la mort de George Floyd aux États-Unis, il y a eu une sorte de réaction mondiale partout dans le monde contre le racisme. Mais pendant ce temps-là, lorsque le Covid arrive, et moi je tombe malade, donc je suis chez moi et je ne sais pas sortir. Mais le jour où le système de santé écossais m'autorise de sortir, après avoir été établi que je n'ai aucun problème avec le Covid, j'entre dans ma voiture, je vais faire des achats. Edimbourg est une ville montagneuse. C'est lorsque ma voiture bascule brutalement. Et je sors de la voiture et je vois que des individus ont mis des clous dans mon véhicule. C'était la chasse à tous ceux qui sont noirs et qui émerge dans la société écossaise, les plans de nous faire du mal. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je ne peux plus tolérer ça. Alors, je crée le mouvement qu'on appelle le Freedom Walk, la marche de la liberté, où tous les citoyens, quel que soit où ils sont, par qui ils viennent, travaillent pour une société équitable et juste. Et ça, c'était l'agenda que je voulais mettre sur la table. Je dis, écoutez, ceux-là qui continuent à amener ces mouvements racistes et qui continuent à attaquer les personnes qui veulent la positivité dans notre société, nous devons les rapprocher, avoir un dialogue avec eux. Alors ça, que ce soit le gouvernement écossais, que ce soit la société civile écossaise, que ce soit le mouvement des droits de l'homme écossais, ils ont tous embrassé ça.
Donc, madame, on peut dire que vous êtes passée d'un combat à l'autre. Le premier combat, vous l'avez commencé déjà dans votre pays, la République démocratique du Congo, et vous l'avez continué au Royaume-Uni et précisément maintenant en Écosse.
Effectivement, mon combat est parti d'un étape à un autre, mais seulement je ne savais pas que ça allait m'amener là où ça m'a amené aujourd'hui.
Et comment s'est fait le passage maintenant de ces combats que vous continuez encore à mener au monde universitaire?
Je n'ai pas vraiment un contact direct avec le monde universitaire. J'ai œuvré dans le domaine de l'éducation à travers la Société Royale d'Edimbourg, qui est l'Académie Nationale Écossaise. Mais seulement au mois de novembre, les représentants des syndicats, des travailleurs de l'université...
Novembre 2020.
Voilà, novembre 2020. C'est en ce moment-là qu'ils vont m'envoyer un email pour me dire, Déborah, nous avons eu notre réunion aujourd'hui. Le prochain recteur de l'université d'Edimbourg sera élu au mois de février prochain. Et nous avons décidé de te choisir, toi, comme candidat aux prochaines élections. Je me suis dit, moi? Est-ce que vous savez que cette université, c'est l'université la plus conservatrice au monde? Vous prenez une personne noire pour être candidat recteur? C'est dans ce moment-là que je vais répondre à l'email pour me dire, je voudrais vous parler, vous qui m'avez choisi. Alors, on a une réunion avec eux. Je leur ai posé la question, pourquoi moi? Ils disent, le travail fait par rapport au racisme dans ce pays nous a ouvert les yeux. Nous avons compris que nous nous sommes tombés dans un trou dans lequel il est en train de ronger notre société. Et on voudrait que maintenant, ce travail puisse être imbibé dans l'éducation écossaise à travers l'université et que cela puisse vous permettre de vous exprimer et que le monde entier puisse vous écouter. Parce que ce poste-là est un poste politique, ça c'est vrai, mais beaucoup de personnes seront intéressées d'écouter le recteur de l'Université d'Edimbourg qui amène un agenda antiraciste dans l'éducation écossaise. C'est là que tout est parti.
En vous écoutant, quel message pouvez-vous avoir pour les hommes et les femmes qui luttent pour la vie contre les préjugés, contre le racisme, contre la violence, puisque vous-même, vous êtes vraiment un témoin direct de certains de ces problèmes qui touchent la société aujourd'hui?
L'un des premiers messages que je voudrais lancer, c'est que ne retournez pas le mal au mal. Il y a une puissance derrière le pardon. Connaître le mieux les personnes qui sont en train de vous persécuter vous permettra de connaître le contexte de cette situation dans laquelle vous vous retrouvez. Ça, c'est la première des choses. Soyez tolérants de ceux-là qui sont en train de vous juger. S'il vous plaît, continuez à promouvoir le dialogue. Dialoguez avec eux. Ne les éloignez pas. Il y a toujours quelque chose derrière ces injustices. Quelquefois, c'est personnel. Quelquefois, c'est public. Quelquefois, ce sont des antécédents de leur propre famille. Ayez ce sens d'ouverture, d'approcher ces gens-là. C'est très important.
Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure notre entretien?
Il ne faut surtout pas abandonner vos droits. Apprenez à respecter votre droit et respectez aussi les droits des autres. Lorsque vous êtes persécuté, ne rendez pas le mal pour le mal. L'avenir nous réserve beaucoup de choses. Nous avons le plus grand combat entre nos mains. Le Covid-19 nous amène un combat de l'invisible qui ne choisit ni la couleur de la peau, ni l'âge, ni le contexte dans lequel il attrape les personnes. C'est le moment pour nous tous de construire un monde juste et équitable.
Madame Deborah Kayembe, originaire de la République démocratique du Congo, rectrice élue de l'Université d'Edinburgh en Écosse. Propos recueillis par Jean-Pierre Bojoko.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition de notre programme que vous avez suivi en compagnie des Donatien Nyembo. Merci de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence, même radio.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a